La région stratégique de Tillabéri, située au sud-ouest de la République du Niger et partageant des frontières avec le Burkina et le Bénin, a encore une fois été cible des attaques perpétrées contre des civils. C'est le village de Aloukora, situé à une vingtaine de kilomètres de la préfecture de Boni-Bangou, qui a été la cible des assaillants venus à moto. 18 civils trouvés dans le village et dans les champs de milan environnants ont été tués. Au moins 3 villageois ont été blessés, lit-on à ce sujet sur RFI. Comme à leur habitude, le récit des attaques perpétrées par des présumés djihadistes est raconté en détail par les médias mainstream, comme si ceux-ci étaient présents sur place. En effet, le Niger a enregistré ces derniers mois d'importants progrès dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et ces attaques ne doivent pas être prises à la légère, surtout que pour la majorité du temps, elles ont lieu dans la fameuse zone des trois frontières. Il faut savoir que ce genre d'attaque à l'encontre des civils provoque le déplacement de ceux-ci et permet donc non seulement aux groupes terroristes de s'y installer, mais aussi aucun témoin ne pourrait réellement voir ce qui se passe ou ce qui se trafique dans cette zone. Cela dit, le Niger est assez particulier et il faudrait peut-être voir la situation sous un autre angle. Cette région se trouve également sur les frontières nord du Bénin, un Bénin qui montre de plus en plus ses ambitions pour un rapprochement avec l'axe de l'Est. Le Niger et le Bénin travaillent durement sur les travaux de construction du pipeline Niger-Bénin. Ce n'est pas sans raison si la France a récemment annoncé que le Sénégal et le Bénin n'étaient plus des pays sûrs pour Paris. En effet, la priorité de la France et les États-Unis, dans un premier temps, ce serait de vider la fameuse zone des trois frontières de ses civils, mais surtout de ses résistants, pour y déployer définitivement la base arrière des terroristes. Mais le peuple nigérien reste farouchement sur sa position comme quoi l'Occident doit arrêter sa politique néocolonialiste et que le Niger est tout à fait capable, contrairement à ce qu'annoncent continuellement les médias mainstream, de tenir debout et de se débarrasser du fléau du terrorisme sans l'aide de Barkhane. Alors que le Sénégal montre de plus en plus son détachement envers l'axe US-OTAN et ce, aussi bien sur le plan diplomatique qu'économique, l'assaut occidental contre ce pays prend une nouvelle tournure. En effet, alors qu'il y a à peine un mois, le Sénégal, avec plusieurs institutions, des pays européens et les États-Unis notamment, a annoncé la signature à Dakar d'un accord d'un montant de 200 millions d'euros visant à financer l'installation dans ce pays ouest-africain d'une usine de production de vaccins contre le COVID-19 et d'autres maladies endémiques. Est-ce un piège cette histoire de fabrication d'une usine de vaccins au Sénégal, sans pour autant mettre en relief qu'il s'agit d'un projet américain-européen qui, à coût des milliers de dollars, cherche à introduire au Sénégal un vecteur pathogène que plus d'une source scientifique fiable donne pour être une arme biologique. En fait, le Sénégal a connu jusqu'ici aucune flambée de la pandémie, mais voici depuis quelques jours que cette flambée est là et que le monde, RFI, AFP et compagnie, en parle de manière hyperbolique. Le rebond des contaminations au COVID-19 en Afrique, ces dernières semaines, n'a pas épargné le Sénégal. Après avoir évité la catastrophe au début de la pandémie, et alors que les contaminations diminuaient, le pays connaît depuis début juillet une flambée des cas, lit-on dans ces médias. Depuis le début de la pandémie, l'Occident a beaucoup cherché à répandre le coronavirus à travers le continent. On se rappelle l'épisode de Douala au Cameroun, où un vol d'Air France a directement fait atterrir des bioterroristes sur le territoire camerounais. Plus récemment, en Afrique du Sud, dès que Pretoria a affirmé avoir surmonté la crise et envisagé de faire bénéficier aux États africains et aux BRICS les acquis de cette reprise, le monde a assisté à l'éclatement des violences interethniques. L'assaut anti-sud-africain continue encore avec un dernier épisode, un cyberattaque visant les ports sud-africains. Parler de BRICS dans le cas sud-africain nous renvoie aux coopérations de plus en plus larges du Sénégal avec l'axe de l'Est et on pense plus particulièrement à la Chine. En effet, la construction de cette usine de production de vaccins qui semble être un foyer de propagation coïncide avec cette autre annonce de l'USAID qui s'inscrit dans une démarche visant à aider le Sénégal se départir de l'aide étrangère des États-Unis afin que les deux pays deviennent des partenaires économiques et de développement durable, a-t-on appris de l'agence américaine mercredi. Cela vise bien sûr à chasser la Chine du Sénégal. Après leur défaite à obtenir les objectifs souhaités par l'installation de l'AFRICOM et remplacer la Chine et la Russie, ce nouveau scénario est mis en place. Avec ses positions en faveur du droit des Palestiniens, les nombreuses manifestations anti-France et surtout les dernières manœuvres politiques pour s'éloigner des rapaces occidentaux, notamment en rejoignant l'axe anti-sanctions US, il est clair que la France et les États-Unis cherchent à tout prix à trouver une nouvelle solution afin de renforcer la sphère d'influence occidentale qui plane sur le pays. La rencontre est qualifiée d'historique. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo se sont rencontrés pour la première fois depuis la crise post-électorale de 2010-2011. La rencontre s'est déroulée au palais présidentiel d'Abidjan et a duré une heure. Luc Michel, géopoliticien, revient sur ce sujet.
Je ne suis pas des experts qui saluent cette rencontre. Elle est saluée par les médias occidentaux et ce n'est pas un hasard. Il y a actuellement une opération politique qui est menée à l'international en Afrique. Elle a été théorisée par l'International Crisis Group à Bruxelles. C'est l'ONG centrale du réseau Soros. Elle est présidée par son fils Alexander Soros, qui est un ami de Kamala Harris. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de proposer dans tous les pays africains des négociations qu'ils appellent inclusives et de ramener dans le jeu politique des opposants pro-occidentaux qui ont échoué. Il y a la rencontre entre Ouattara et Gbagbo. Il y a la rencontre qui est prévue, on en parle maintenant, au Gabon, entre Ali Bongo et Jinping. Il y a eu la proposition qui était faite en Centrafrique de mettre autour d'une table de négociation les groupes rebelles, le président Touadéra et Bozizé à Luanda en Angola. Les Russes s'y sont opposés et Touadéra a refusé, ce qui est une escroquerie politique. Il y a la même tentative qui est proposée par les Américains au Cameroun. Il faudrait que les gens, les autonomistes, les sécessionnistes de l'Ambazonie soient reconnus comme partenaires de Yaoundé. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Il y a un an, Ouattara, il a fait un coup d'État constitutionnel. Il s'est présenté à un troisième mandat qui interdit la Constitution et il a fait régner un climat de terreur pendant les élections. L'opposition avait fait un front uni. Elle avait même constitué un front d'opposition et une tentative de gouvernement de transition. Et Ouattara, fort intelligemment, il a saucissonné cette opposition. Il l'a divisée en négociant séparément avec Bédié, avec Blégoudé et avec Gbagbo. Il a en plus divisé le parti de Gbagbo entre les partisans de Gbagbo. Ce qu'on appelle donc le front patriotique ivoirien historique, en discutant avec le front légal qui est celui d'Afrique Guessant et en discutant avec une troisième tendance qui est celle de Madame Gbagbo au sein de ce front historique. Au bout d'un an, Ouattara est le grand gagnant de cette opération. Lui qui était dans la tête d'un gouvernement fragile et illégitime, il est aujourd'hui en position de force. Il a éliminé les concurrents de son petit frère qui s'appelle Tei Ibrahim Ouattara. Tei Ibrahim Ouattara, c'est le patron de l'État profond ivoirien. C'est lui qui contrôle les polices parallèles, les barbouzes et les voyous qui sont les milices du régime de Ouattara et qui ont commis des atrocités lors de l'élection il y a un an. Les concurrents du frère de Ouattara, auquel Ouattara songe pour sa succession, donc l'ancien premier ministre Kayoko et l'ancien premier ministre Gon Coulibaly, ils sont morts dans des conditions terribles. On parle d'empoisonnement, ils ont eu des morts rapides sous forme de cancer. Ouattara était rejeté par les Américains à la fin de l'administration Trump. Il a habilement négocié avec l'administration Biden. sous prétexte de lutte contre le terrorisme et d'arrivée de Daesh en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en train de remplacer le Sénégal. Il y a des troupes américaines, il y a l'Africom qui est déployée. Les Américains maintenant protègent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train de remplacer le Sénégal. Vous savez qu'avec l'arrivée de votre pays, l'Iran, en Afrique, dans l'Afrique centrale et en Côte d'Ivoire, l'Iran a réussi à retourner le Sénégal. Le Sénégal, qui est un État pro-occidental aujourd'hui, c'est un État pro-russe, pro-chinois, pro-iranien. Il est lié à l'Iran et à la Russie dans l'association des États producteurs de gaz avec les Équato-Guinéens de Malabo. Et le Sénégal est en train de combattre notamment les Français, les Américains, et une tentative de révolution de couleur. Le Sénégal, qui a des bases françaises et américaines sur son territoire, il n'est plus fiable aujourd'hui, et donc les Français sont en train de se redéployer en Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre qu'intervient le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire et la rencontre de Laurent Gbagbo avec force, embrassade et sourire avec Ouattara. Je considère, moi, cette rencontre comme une trahison de l'opposition ivoirienne et comme une trahison au profit du régime de Ouattara. On ne peut pas dire, il y a un an, que Ouattara est un président illégitime et aujourd'hui le reconnaître, l'embrasser et le rencontrer comme le président de la Côte d'Ivoire. Gbagbo s'est fait manipuler. Tout d'abord, il a été manipulé par les Français, les Belges et la CPI. Son retour a été fait dans des conditions qui sont des conditions manipulées par Ouattara. Vous savez que Gbagbo était marié à Simone Gbagbo, et donc qui était l'ancienne première dame, mais depuis qu'il vit en Belgique, il revit avec l'ancienne première dame avec qui il vivait après Simone Gbagbo, et il est rentré en Côte d'Ivoire avec elle. Sa première déclaration publique, ça n'a pas été une décision politique, ça a été de déclarer qu'il allait divorcer de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, qui a payé lourdement par des années de prison, et elle a été violée lors de l'arrestation de Laurent Gbagbo, il ne faut pas hésiter à le dire. Elle a donc payé un lourd prix humain pour en être mal récompensée. Mais le divorce avec Simone Gbagbo, c'est une faute politique. Parce que Simone Gbagbo, c'est pas seulement l'épouse de Laurent Gbagbo dont il veut divorcer, c'est la vice-présidente du Front populaire ivoirien. Et donc, elle est furieuse contre son mari. Elle n'est pas d'accord avec les conditions de ce retour et de la réconciliation avec Ouattara. Et donc, Ouattara a très bien joué puisqu'il a divisé le Front populaire ivoirien tendance Laurent Gbagbo. Quelle est la situation politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il reste un seul opposant déclaré qui est la bête noire du régime, c'est Guillaume Soro. Guillaume Soro, lui, n'a pas abdiqué. Il continue à dénier toute légitimité à Laurent Gbagbo et à le combattre à l'international, notamment devant la Cour africaine des droits de l'homme, qui à deux reprises a déjà condamné la Côte d'Ivoire de Ouattara. Et il est en train de combattre devant les instances internationales, notamment l'association parlementaire internationale qui regroupe 150 parlements dans le monde. Il est en train de combattre l'illégalité du régime de Ouattara. Guillaume Soro, il a des alliés puissants en Afrique, notamment la Guinée équatoriale et notamment les Chinois en Afrique, puisque l'un des alliés de Guillaume Soro, c'est le Parlement chinois, l'Assemblée populaire chinoise et le Parti communiste chinois. Donc, moi, je ne vois pas, je ne suis pas un groupie de Laurent Gbagbo. J'ai combattu pour qu'il soit libéré de la haine. Je suis extrêmement déçu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Lorsque je vois les sourires et les embrassades entre Gbagbo et Ouattara, je suis malheureux. Je vois une faute politique grave.
Un tribunal de l'État nigérian de Kaduna a acquitté le cheikh Ibrahim Zakzaki, chef du mouvement islamique au Nigeria, et son épouse de toutes les accusations portées contre eux. Le procès devant la Haute Cour de l'État de Kaduna a débuté le 15 mai 2018 et a duré plus de 3 ans. La Haute Cour a rendu son verdict final mercredi, a déclaré Ishaq Adam Ishaq, leur avocat, dans un communiqué. Ils ont été libérés de détention à la suite de la décision, a-t-il ajouté. Enfin, nous avons gagné, a salué le représentant légal, ajoutant « Ils ont gagné leur liberté, ils sont maintenant libérés et avec nous ». En décembre 2015, l'armée nigériane a lancé une campagne de répression contre le mouvement qu'Abuja a qualifié d'illégal. Les militaires ont pris d'assaut la résidence de Zakzaki dans la ville de Zaria à Kaduna, blessant Zakzaki et son épouse.
La firme pharmaceutique sud-africaine Aspen, en charge du conditionnement du vaccin Johnson & Johnson en Afrique du Sud, vient de livrer son premier lot de vaccins fabriqués au niveau local. Cette firme pharmaceutique est heureuse de confirmer que la première livraison à l'Afrique du Sud du vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson sera effectuée lundi, a indiqué l'entreprise dans un communiqué sans préciser la quantité de vaccins livrés. Aspen a qualifié cette livraison de jalon important dans l'histoire de l'Afrique du Sud et de l'Afrique en général, car ce sont les premiers vaccins COVID-19 produits sur le continent africain par une firme africaine pour des patients africains. Aspen produit ses vaccins dans son usine de Gebera dans le sud du pays. L'Afrique du Sud a récemment accéléré son programme de vaccination avec 6,3 millions d'injections effectuées et 10% de la population qui a reçu au moins une dose de vaccin. Le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré, dans son discours d'ouverture à l'occasion du Conseil conjoint de gouvernement de la 9e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, a déclaré qu'aujourd'hui la réouverture des frontières entre les deux pays, fermées pour limiter la propagation de la COVID-19, se pose avec acuité. En plus de cette épineuse question, le chef du gouvernement s'est aussi prononcé sur plusieurs sujets, dont le terrorisme et la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les deux pays se sont félicités de la mutualisation des efforts en vue de permettre la circulation des personnes entre les deux pays pour des raisons humanitaires en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 pendant les périodes de fermeture des frontières. Cependant, ils proposent la tenue d'une réunion des ministres en charge de la santé, de la sécurité et des transports afin d'analyser les modalités de mise en œuvre des décisions pour mieux préserver la sécurité des deux pays et la santé des populations. Le Mozambique dépend à 83% de ses ressources hydroélectriques. Pour faire face à la demande, le pays compte également s'appuyer sur cette ressource pour accroître son taux d'électrification, qui est d'environ 30%. Le Mozambique disposera de 1500 MW d'électricité supplémentaire en 2030 avec l'entrée en service du barrage de Fanda-Kouva. Cette annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, le vice-ministre de la Justice, Filimao Souazé. Le nouveau barrage sera construit sur le fleuve Zambézé, à 60 km en aval du barrage de Kaurabassa, dans la province mozambicaine occidentale de Tete. Il nécessitera un investissement de 4 milliards de dollars. La majeure partie de sa production sera injectée vers le sud sur une ligne de transmission de 1600 km entre Tete et Maputo. En outre, l'électricité produite pourrait être vendue à la compagnie sud-africaine Eskom, qui achète déjà la plus grande partie de l'électricité produite à Kaurabassa. Eni et Vitol d'une part et Springfield d'autre part sont en conflit depuis avril 2020, date à laquelle l'État leur a demandé de regrouper leurs champs. Les pourparlers entre les deux camps sur la manière d'unifier Afina et Sankofa au Ghana devraient se poursuivre dans les prochains jours. Le 26 juillet, un tribunal de commerce du second ressort a refusé la requête faite par Eni et Vitol de ne pas verser 30% de leurs revenus sur un compte séquestre jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé sur l'unitisation des champs Afina et Saint-Cofa.